Bonjour à vous tous. Alors, poussé par l'esprit, je l'espère, en tout cas, je me suis lancé un défi à faire un truc que je n'avais jamais fait, prêcher sur une généalogie. Et en tant qu'évangélique, quelle généalogie est la plus parlante ? Eh bien, finalement, c'est celle de Jésus-Christ. Il y en a plein dans l'Ancien Testament, il y en a peu dans le Nouveau, mais c'est bien dans le Nouveau qu'on va aller. Et cette généalogie de Jésus, on l'a dans deux évangiles, on l'a dans Matthieu et on l'a dans Luc. C'est celle de Matthieu qu'on va voir ce matin. Il y a de légères différences, en tout cas l'intention n'est pas tout à fait la même selon l'auteur. Vous lirez à la maison si vous avez envie celle de Luc. Moi, ce que je vous propose, c'est Matthieu. De toute manière, Luc, je ne l'ai pas étudié, donc je ne vous en dirai pas grand-chose. Qu'est-ce qu'une généalogie si ce n'est une liste de noms ? Avouons-le, au mieux, c'est un passage que nous survolons, que nous lisons en diagonale pour savoir un peu à quel moment ça s'arrête, histoire de savoir quand est-ce qu'on doit relire vraiment. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un passage qu'on étudie, ce n'est pas un passage qu'on médite, parce que l'effort pour amener le contenu nécessaire, il est conséquent. Juste comme ça, une liste de noms, c'est... Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui nous parlent, parce qu'on l'a vu à d'autres endroits, mais sinon, voilà. Et donc, celle de Matthieu qu'on va voir, c'est Matthieu 1. Matthieu commence par ça. Il s'est dit, tiens, je vais convaincre mon auditoire, je vais commencer par une généalogie, on va tous se mettre dans le bain. Donc, Matthieu, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 17. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Pérets et Zéra. Pérets eut pour descendant Hetsrom. Hetsrom eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nachon. Nachon eut pour descendant Salma. De Rahab, Salma eut pour descendant Boaz. De Ruth, Boaz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam eut pour descendant Abia. Abia eut pour descendant Asa. Asa eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour descendant Joram. Joram eut pour descendant Ozias. Ozias eut pour descendant Jotham. Jotham eut pour descendant Ahaz. Ahaz eut pour descendant Ézéchias. Ézéchias eut pour descendant Manassé. Manassé eut pour descendant Amon. Amon eut pour descendant Josias. À l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Yéconia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Yéconia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. Zorobabel eut pour descendant Abiud. Abiud eut pour descendant Eliakim. Eliakim eut pour descendant Azor. Azor eut pour descendant Sadoc. Sadoc eut pour descendant Haïm. Haïm eut pour descendant Eliud. Eliud eut pour descendant Éléazar. Éléazar eut pour descendant Matan. Matan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus, appelé le Christ. Il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 de cette déportation jusqu'au Christ. Voilà. Et là, tout d'un coup, vous vous rappelez pourquoi vous survolez ces passages. C'est long à lire. Mais quel contenu, une fois qu'on l'a étudié, vous allez voir. Matthieu, quand il dresse cette généalogie, il dresse un chemin en trois étapes. Et il le redit à la toute fin, au verset 17. On a Abraham, David et la déportation. Ce que je vous propose ce matin, c'est finalement de prendre ce même chemin, sauf que on regroupera David et la déportation ensemble parce que je crois qu'ils parlent globalement de la même chose. Vous verrez. Pourquoi Matthieu a fait cette généalogie? Pourquoi il a voulu poser cette liste de noms? Et donc, avant d'entrer dans le contenu des noms qui sont cités, il y a deux versets. Un avant, un après, le verset 1 et le verset 17, donc, qui nous donnent un peu cette information du pourquoi. Quelle est l'intention de Matthieu? Tout d'abord, au verset 1, on a la formulation « voici la descendance de ». Cette formulation, elle n'est pas due au hasard, vous la retrouvez à un autre endroit dans la Bible, en Genèse 2. Voici la généalogie d'Adam. Mais, même si c'est la même formulation et qui nous fait rappeler à cette généalogie d'Adam, la généalogie est inversée. Jésus est bien le dernier descendant de cette liste et il est cité comme référence à Abraham et David, qui eux lui sont rattachés. D'habitude, ce qui se passe dans les généalogies, c'est que les descendants acquièrent leur valeur, acquièrent leur sens par rapport à celui dont ils sont issus. Ici, c'est Christ qui donne le sens et la valeur à la présence de David et d'Abraham dans cette liste. L'objectif de Matthieu, il est assez simple, on pourrait le résumer comme ça. Il veut faire pointer vers Jésus-Christ. Ici, l'objectif n'est pas tant que Jésus devienne le nouvel Adam, mais qu'il soit surtout le nouveau porteur de la promesse, la nouvelle tête du peuple de Dieu. Voilà pour le verset 1 et le verset 17. Dans le verset 17, Matthieu fait des maths. Matthieu sait compter, c'est bien. Pour quelqu'un qui gérait de l'argent, c'est plutôt bien. Il nous dit qu'il y a 3 fois 14 entre Abraham, David et Babylone. Ces trois personnages, même si Babylone n'est pas un personnage, c'est une ville, elle fait référence à la déportation, ce sont les points de départ, ce sont les références de la liste des noms qui suivent. D'accord ? Donc vous avez 14 noms, en fait vous avez un premier nom, et 13 derrière qui font référence à ce premier nom, dans le sens. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant que les Arabes arrivent avec l'usage des nombres tels qu'on le connaît aujourd'hui de manière mathématique, les chiffres, les nombres étaient assez couramment utilisés pour leur valeur symbolique. Il y a 3 fois 14, et si on fait un peu de maths, 14 c'est aussi 2 fois 7. C'est bon? Jusque-là, personne? Ok. Donc on a trois chiffres, 3, 2 et 7. Les valeurs symboliques de ces chiffres. 2, c'est l'alliance. Parce que pour faire alliance, il faut être 2. 3, c'est la Trinité, c'est Dieu. Et 7, peut-être que vous l'avez déjà entendu dans quelques passages de la Bible, 7, c'est, en général, on dit que c'est la perfection, c'est aussi l'accomplissement divin. 3, 2, 7. L'alliance de Dieu parfaitement accomplie. Matthieu conclut cette généalogie en nous disant « En Jésus, l'alliance de Dieu est parfaitement accomplie. » Mais de quelle alliance on parle? C'est de celle que Dieu a conclue avec son peuple. Et cette alliance, elle contient deux promesses principales. Une faite à Abraham, et la seconde faite à David. Et là, tac, on commence à voir les petits trucs qui se mettent en place par rapport à la liste de noms. Rentrons dans cette liste. Abraham, ni droit du sol, ni droit du sang, mais le droit de la foi. Voilà comment j'ai intitulé ce chapitre. Avec Abraham, on a une ouverture de l'alliance aux nations. Chose étrange, puisque dans la compréhension des Juifs, c'est parce qu'ils sont fils, réellement, par le sang d'Abraham, qu'ils sont dans le peuple de Dieu. Et on va voir qu'en fait, non, ça va plus loin que ça, dans cette généalogie. Dans une généalogie, d'habitude, on cite surtout des hommes. On cite que des hommes. Ici, il y en a trois plus une. Restons sur trois pour l'instant. Tamar, Rahab et Ruth. Trois femmes. Elles sont femmes, c'est vrai, mais elles sont aussi et surtout étrangères. Tamar et Ruth sont cananéennes. Tamar et Rahab sont cananéennes, Ruth est moabite. Tamar, il faut savoir qu'elle a eu un premier mari qui s'appelait Er, que l'Éternel a décidé de faire mourir parce qu'il l'avait jugé mauvais. Ce à quoi son beau-père, comme il était d'usage, lui a donné son second fils comme mari, mais il n'était pas meilleur que son frère, donc l'Éternel l'a fait mourir aussi. À ce moment-là, Judas, il a commencé à avoir un peu les pétoches. Donc il s'est dit, je ne vais pas lui donner mon troisième fils, moi je veux le garder, mon troisième fils. Donc elle est restée veuve pendant ce moment-là. Tamar voulait une descendance et c'était dans la promesse d'Abraham, il fallait qu'elle ait une descendance. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Un truc assez simple, très courant, hein, j'avoue. Elle s'est prostituée auprès de Judas, son beau-père, de manière cachée, hein, lui ne le savait pas. Et à la suite de ça, elle a eu cette descendance. Et cette descendance, on la retrouve dans la généalogie de Jésus. Elle a eu deux fils jumeaux qui sont Pérets et Zéra. Judas l'a reconnue comme juste. Il l'a reconnue comme juste car il avait manqué, lui, à son devoir en ne lui donnant pas son troisième fils. On pourrait juger de la manière dont elle a fait ça, c'est vrai. Mais restons sur le fait qu'elle a été reconnue comme juste par Judas. Rahab, alors on reste dans le thème, c'est aussi une prostituée. Rahab, elle, au moment où les Hébreux sont rentrés dans la terre promise, il fallait vaincre une première cité qui s'appelait Jéricho. Des espions sont rentrés dans Jéricho et Rahab est cette personne qui a caché les espions. Elle l'a fait parce qu'elle avait la crainte de l'Éternel. Elle les a cachés, elle les a laissés partir, elle leur a donné toutes les informations nécessaires. Jéricho est tombé après l'attaque des Hébreux. Et quand les Hébreux ont rasé la ville et tué absolument tout le monde, ils ont laissé une famille en vie, celle de Rahab. C'est grâce à sa foi, à sa crainte de l'Éternel, que sa famille a été épargnée du massacre de Jéricho. C'est pas anodin ce qu'elle vient de faire. Elle vient de trahir son peuple. Et de ça, elle est reconnue comme un modèle de foi dans le livre des Hébreux. Alors, le livre des Hébreux, vous l'avez dans le Nouveau Testament, malgré son nom. Troisième femme, Ruth. Aussi citée comme un modèle de foi. C'est une Moabite, je le disais. Peut-être que vous ne connaissez pas tous l'histoire de Ruth dans le livre de Ruth, c'est quelque chose qu'on lit parfois. Elle a perdu son mari et les frères de son mari aussi. Et à la suite de ça, Naomi, sa belle-mère, a décidé que pour elle, il n'y avait plus rien à attendre ici. C'est le mari de Noémie qui est mort, pardon. Et tous les fils. À ce moment-là, ils étaient à Moab, et donc Noémie a décidé de retourner dans son pays, en Israël. Ruth lui a dit, « Je ne vais pas t'abandonner, moi je veux te suivre. » Et pour ça, elle a quitté son pays. Elle a amoindri grandement ses chances de trouver un mari. Un mari, c'était quelqu'un pour la protéger, pour lui apporter des finances, etc. C'est pareil à ce moment-là. Et elle a fait ça, en faisant ça, elle a créé une alliance forte avec l'Éternel. Boaz, un peu plus tard, la reconnaît comme une femme de valeur. D'ailleurs, il s'est marié avec. Voilà la troisième femme. Et je vous disais qu'il y en a peut-être une quatrième. Il est cité la femme du riz. La femme du riz, elle s'appelle Bathsheba. Mais Bathsheba n'est pas mentionnée. C'est bien la femme du riz qui est mentionnée. Elle est citée non pour elle-même, mais pour faire pointer sur la faute de David. Parce que c'est bien avec David qu'elle a eu une descendance. David a fait tuer Uri son mari pour lui piquer sa femme. On peut le résumer à peu près comme ça. Et ça, ça a été le plus grand péché de sa vie. Il se repentira de cette faute devant Dieu. Et on a le très beau et très puissant psaume 51 qui relate ça. Si un jour vous devez demander pardon à Dieu et que vous cherchez des mots, lisez le psaume 51. Il y a plein de trucs intéressants dedans. Voilà, pour ces quatre femmes, anomalies, je veux dire, dans cette généalogie. Et donc on pointe vers le seul critère qui vaut la peine pour être dans le peuple de Dieu, et ce critère, c'est la foi. Jésus réalise la promesse d'Abraham et il va plus loin, il va au-delà du peuple hébreu. Ça, on l'a vu. Il y a des Cananéens et une Moabite qui rentrent. Il va au-delà du péché du peuple. David a péché, c'est moche ce qu'il a fait, il s'en est repenti. Et il est cité, doublement cité, dans ce passage. On voit ça, cette ouverture, elle est manifeste dans deux passages, notamment du Nouveau Testament. Vous retrouvez ça à la croix, quand un prisonnier qui était crucifié à côté de Jésus dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et ce prisonnier, donc qui a été pécheur, j'imagine, Jésus lui répond « Je te le dis, ce soir même, tu seras avec moi auprès du Père. » Et le deuxième passage, en tout cas il y en a plusieurs, mais on a une ouverture de la parole qui est faite aux Samaritains et après au reste du monde. Dieu s'est fait un peuple par Christ, composé entre autres d'étrangers et de pécheurs. La promesse d'Abraham, du coup, elle prend un sens beaucoup plus large. Je vais vous la lire. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi et avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Tamar, Rahab, Ruth et David ont été jugés par leur foi. Leur lieu de naissance n'est plus un blocage. Le péché n'est plus un blocage. La seule chose qui compte, c'est l'attachement à Dieu. Édith Piaf a écrit une chanson qui s'appelle « L'hymne à l'amour » et qui a été reprise notamment par Johnny Hallyday, mais qui a transformé les paroles, c'est moins bien, je trouve, bref, et qui a été reprise aussi par Céline Dion tout récemment au-delà de la Tour Eiffel.
J'irai des gorges et la lune, j'irai voler la fortune, si tu me demandais, je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire.
merci. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. Peux bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe. Si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime ? Et elle conclut en disant « Dieu réunit ceux qui s'aiment ». La chanteuse dit qu'elle est prête à tout par amour. Ruth n'a-t-elle pas renié sa patrie pour le dieu de Noémie ? Rahab n'a-t-elle pas trahi toute la ville de Jéricho pour le dieu des Hébreux ? Tamar n'a-t-elle pas pris tous les risques en se prostituant pour avoir un héritier de la part de son beau-père Judas ? La foi peut aller jusqu'à ses extrêmes. Et jusqu'où va ma foi aujourd'hui? Peut-être nous disons-nous être prêts à mourir pour Christ comme l'ont fait les premiers chrétiens, mais soyons réalistes. N'est-ce pas sur des petits pas de foi que nous butons au quotidien? Pour faire partie du peuple de Dieu, je vous rassure, pas besoin d'aller dans ces extrêmes. Le ticket d'entrée, c'est la foi en Jésus comme sauveur. Et en plus, c'est un ticket prépayé. On a vu en Jean 6, cette semaine, en groupe de maison, un passage intéressant. Il y a un échange qui nous parle ce matin. Le peuple s'adresse à Jésus en lui disant « Que devons-nous accomplir pour faire les œuvres que Dieu attend de nous ?» Ce à quoi Jésus répond « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » La seule chose à faire, c'est de prendre le ticket d'entrée prépayé, accepté en reconnaissant Christ comme sauveur et comme Seigneur. Et justement, parlons-en du côté Seigneur de Christ. Et pour ça, on va aller voir la liste de David. David, un roi sur le trône pour l'éternité. À partir de David, on a, avec David d'ailleurs, on a 14 rois. Certains sont bons, certains sont mauvais. Vous pouvez le retrouver dans le livre « Un roi, deux rois ». À partir de la déportation, il y a 14 noms. On connaît les trois premiers. On connaît. Ils sont cités à d'autres endroits dans la Bible. Le reste, on ne sait pas. Quand David est cité, il est cité en tant que roi David. Et ça, cette petite mention, vous ne la retrouvez pas sur la liste des autres rois qui suivent derrière. Ce que ça veut nous dire, c'est que c'est bien de la royauté de David que Jésus est le roi. C'est bien de la royauté de Jésus que David est l'image, pour le dire à l'envers. Donc du verset 7 à 10, vous avez une liste de 13 noms, de 13 autres rois qui sont cités. Bon, si vous êtes précis dans les détails, en réalité, dans l'histoire, il y en a eu 19. Il y en a trois qui ne sont pas cités, je ne vous dirai pas pourquoi, les commentateurs ne me l'ont pas expliqué non plus, on ne sait pas. Les trois derniers, par contre, on sait que c'était les trois derniers avant la déportation, on sait que c'était trois rois vraiment, vraiment nuls. Je vais le dire avec des mots d'enfant, mais vraiment nuls. Et c'est à ce moment-là où Dieu a dit, bon, bah, c'est bon, fin de la patience, on envoie tout le monde à Babylone. Leur absence de ces trois derniers, finalement, dans ce passage, donc fait penser à leur rôle dans la déportation. Ce saut de génération montre en sous-titre que malgré la déportation, malgré les mauvais rois, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et je veux croire que Jésus est la raison de ce non-abandon. Jésus, lui, est descendant de tous les rois entre David et Babylone. De tous les rois. Christ n'est pas simplement juste un roi juif sur le papier. C'est un descendant de tous les rois d'Israël et de tous ceux du royaume de Juda. De plus, c'est le roi parfait là où tous les autres ont échoué. C'est ironique cette situation quand on sait que sur la croix de Jésus à Jérusalem, il y avait un petit écriteau qui avait été écrit par les Romains par rapport à ce qu'ils avaient compris de ce que les Juifs croyaient. Il était marqué « Celui-ci est le roi des Juifs ». Jésus confirme le serment que Dieu a fait à David de faire persister ses descendants à la tête de son peuple à tout jamais. Si la lignée a pris parfois des chemins surprenants, décevants, risqués, la mention de l'exil est une étape où vraiment tout aurait pu s'arrêter. Et pourtant, sa persistance confirme l'idée sous-jacente que ce parcours d'Abraham à Jésus n'est pas le fruit du hasard, mais un projet dont Dieu est le réalisateur. Et juste après notre passage, l'intervention directe de Dieu dans la suite du chapitre, auprès de Joseph et de Marie pour la naissance de Christ, pose l'argument final que c'est un projet qui est mené par Dieu. Jésus est le bon roi qui a toute autorité. Et nous, nous sommes invités à faire partie de son peuple. La déportation à Babylone n'a pas mis fin à l'alliance entre Dieu et son peuple. De même, nous, nous sommes assurés que rien ne pourra nous séparer de Christ. Babylone, c'était une étape de quasi-échec de la promesse. Et elle est citée dans cette généalogie pour montrer que le projet de Dieu n'est pas vaincu, il n'est pas abandonné, et qu'il finit par ressortir de la manière la plus humble qui soit. Et cela se fait par un simple homme venant de Nazareth. Et Nazareth, c'est un village pauvre, plutôt paumé tout au nord, sans importance, qui a une réputation d'être régulièrement influencé par des cultures païennes, et qui est donc bien loin des centres spirituels importants de l'époque. Mais pourquoi vouloir un roi ? Dans le monde d'aujourd'hui, des mauvais rois, il suffit de se baisser pour en ramasser. Je n'ai pas besoin d'ouvrir des livres d'histoire. Il n'y a pas si longtemps, on montrait du doigt les États africains. Aujourd'hui, le donneur de leçons est un peu honteux quand il voit l'attrait de la puissance et du pouvoir qui est aujourd'hui hors de contrôle en Russie et aux États-Unis. Alors, j'ai parlé des deux blocs. Au milieu, il y a la vieille Europe. On n'est pas loin derrière avec des paroles xénophobes qui sont de plus en plus acceptées dans les urnes, que ce soit en Hongrie, en Autriche, en France, en Allemagne, en Italie. Je ne parle pas de convictions politiques, je parle de ce que j'ai lu dans les statistiques. Alors voilà, être soumis à un roi comme ça, non merci. Mais ce que Dieu nous propose donc, c'est de régner lui-même sur nous, un Dieu parfaitement bon et parfaitement juste. Voilà son projet. Le peuple hébreu, dans son temps, avait lui aussi demandé à Samuel un roi pour régner sur eux, comme c'était le cas pour les autres nations, eux aussi, ils en voulaient un. Dieu, à regret, leur a accordé Saül. Et au début, c'était bien. Au début. Puis après, ça s'est gâté. Et ils ont été déçus. Alors moi, je comprends quand Olivier, Sonia ou Jean-David nous parle sur un ton grave et un peu accusateur de nos gouvernants, de l'état de notre monde. Et là, je ne me pose pas en révolutionnaire 68 heures pour dire ça. Je n'ai pas besoin de mettre un gilet jaune pour dire que le cœur de l'homme, et a fortiori de nos gouvernants, est pourri. La liste des rois entre David et la déportation, elle parle d'elle-même. Alors, arrêtons de vouloir mettre notre confiance dans l'homme avec un grand H, nous serons déçus. David, c'était un bon roi. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le seul à avoir cette petite particule roi David dans cette généalogie. Le problème de tous les mauvais rois, c'est le péché sous toutes ses formes. L'idolâtrie, sexualité débridée, la puissance, le pouvoir, la richesse. Lisez les livres Un roi, deux rois, c'est enrichissant pour ça. Et la solution que Jésus propose, elle est assez simple finalement. C'est l'absence de péché. Jésus est absent de péché. Accepter que Jésus soit notre Seigneur, c'est entrer dans le peuple de Dieu. Et ça, c'est aussi dire non au péché, à notre péché. En France et dans d'autres pays, j'imagine, il existe une loi particulière qui est la grâce présidentielle. Notre président a toute autorité pour gracier n'importe quel prisonnier. Et ça, c'est un peu bizarre quand même. Est-ce que ce n'est pas une anomalie dans la séparation des pouvoirs législatifs, judiciaires, exécutifs ? Ou est-ce que finalement c'est une image de la grâce donnée par le roi de la création, Jésus-Christ ? Seul celui qui a toute autorité peut pardonner. Quand nous désobéissons à la parole de Dieu, nous sommes coupables devant lui. Mais nous avons aussi un roi qui lui-même étant Dieu, veut nous pardonner. C'est même pas peut, c'est veut. En conclusion, Jésus comme sauveur et Seigneur, voilà le plan que Dieu a accompli. En écho aux promesses faites à Abraham et à David, l'alliance de Dieu est parfaitement accomplie en Jésus-Christ. Mais c'est notre foi qui nous limite. À quel point ai-je compris que Jésus veut me libérer du péché et veut être mon Seigneur ? À quelle étape de cette compréhension j'en suis ? Rappelons-nous de Tamar, de Ruth, de David, de Rahab, et comprenons jusqu'où la foi peut nous emmener. Connaissant l'incapacité de l'humanité à se gouverner elle-même avec bonté et justice, Jésus veut régner dans tous les aspects de nos vies. Le point de départ, c'est d'accepter le prix payé par Jésus et de le choisir comme Seigneur. Comme c'est un choix qui est lourd de sens, nous avons prévu de démarrer une nouvelle session de préparation au baptême. Si vous sentez que ce choix est là, devant vous, venez en parler à Laurence ou à moi. Vouloir Christ comme Seigneur, vouloir le laisser régner dans tous les aspects de notre vie, c'est un très beau projet. Mais c'est aussi un chemin semé d'embûches, de défis et de découragements. Mais le Seigneur nous a donné des frères et des sœurs afin qu'ils soient une aide dans ce chemin beau mais difficile. Alors avec Sylvain, avec François, nous nous tiendrons à côté de la scène à la fin de ce culte, si vous voulez qu'on prie pour vous, personnellement. Matthieu, en dressant la généalogie de Jésus, a résumé tout le plan de Dieu. Ce texte nous encourage à aller au-delà de la compréhension historique des personnages cités. Puisse le Seigneur nous montrer que nous sommes les bienvenus dans son peuple et à quels endroits de nos vies nous lui refusons de prendre sa place de roi. Amen.